Bonjour à tous. La circulation de la Covid-19 ralentit en Nouvelle-Aquitaine, notamment grâce à une bonne couverture vaccinale qui doit continuer de progresser, indique l'ARS dans un communiqué publié hier après-midi. L'épidémie reste cependant à un niveau élevé et même si le taux d'incidence diminue, 84 cas pour 100 000 habitants, il est encore au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50. Au 7 septembre dernier, près de 79% des néo-aquitains ont reçu leur première dose et 74% ont leur schéma vaccinal complet.
En Toircelles, les vendanges seront plus compliquées que d'habitude.
Les blancs, à savoir Sauvignon et Chardonnay, arrivent à temps pour la vendange au milieu de ce mois, mais il faudra attendre la fin septembre, voire début octobre, pour la pleine maturité des raisins rosés et rouges. Et la vendange sera plus maigrichonne que d'ordinaire pour la plupart de la vingtaine des viticulteurs de Toircelles regroupés sous la bannière des vins d'Anjou. Les raisons expliquées par le président du syndicat professionnel viticole des Deux-Sèvres, François Martin, au micro-colline de notre correspondant Toircelles, Dominique Hérault.
On a pris le gel, la grêle, et puis ça a été un vrai combat pendant le printemps pour les pathogènes, le mildiou et l'oïdium. Pour tout ce qui est climatique, forcément, c'est venu baisser les rendements à la parcelle. C'est assez hétérogène en fonction des vignerons et aussi des parcelles sur chaque exploitation. Pour chez nous, on a des parcelles qui ont le gel a détruit 90% de la production. Admettons, sur un cépage chenin, au lieu d'avoir 6 à 8 grappes, on va avoir une grappe, quoi. En fonction des vignerons, on n'est pas tous dans le même cas, et en fonction des orientations de parcelles, c'est très hétérogène.
Ce qui veut dire qu'il y a quand même des parcelles qui ont été complètement épargnées, ou presque.
Tout à fait, c'est ça. Ça se joue à quelques dixièmes de degré, le gel, et ce qui fait qu'on a la chance ou pas d'être épargné. Au niveau national, je parle de 30%, entre 25 et 30% de pertes, qui est énorme.
D'une façon générale, les exploitations au nord de Sèvrières ont pu éviter le pire, même si quelques parcelles ont bien souffert. Quoi qu'il en soit, pour augmenter la qualité du millésime, les vendanges devront être particulièrement soignées, les grappes bien triées et la récolte sera suivie par un minutieux travail dans le chai.
Les dates de vendange qui vont être importantes, les tris à faire et puis le travail en cave qui va être cette année très important. Il va falloir qu'on sélectionne les jus. C'est à nous de faire la différence et de garder ce niveau qualitatif qu'on a habituellement. Cette hétérogénéité qu'on a aujourd'hui, ça se travaille. Il y a plein de moyens techniques, naturels bien entendu. Il y a des fermentations à faire, il y a des soutirages, des débourbages, etc. à mettre en place. Il y aura beaucoup plus de travail pour obtenir le maximum de qualité vis-à-vis d'une année facile où il y a eu aucun aléa, tout est homogène. Quand les grains de raisin ils sont faciles à amener à maturité et puis que c'est très homogène, on va dire qu'en cave c'est assez facile à travailler. Une année comme ça, c'est notre savoir-faire qu'il va falloir mettre en exercice. C'est un métier.
Un métier de spécialiste dont la qualité sera reconnue et évaluée au mois de mars prochain lors du concours des vins de Thouars, stade final du travail de viticulture. Ce concours précédera le salon des vins que les amateurs du département et département limitrophes attendent avec impatience. Reportage signé Dominique Hérault.
Le World Cleanup Day en Bocage-Bressuire tout ce week-end.
Tous les ans en France et d'ailleurs partout dans le monde, des opérations de ramassage de déchets dans la nature sont organisées au mois de septembre avec pour ambition d'inspirer l'action citoyenne. Dans le Bocage-Bressuire, 5 événements ouverts à tous ont été recensés. Rendez-vous à 16h cet après-midi, quartier Valette à Bressuire. Les autres rendez-vous auront lieu demain dimanche. À 9h30, rendez-vous place de la mairie de Largeas. À 10h au parking des terrains de tennis à Saint-Pierre-des-Chauvrognes. 10h également au parking de la Croix-Verte à Moléo. 10h aussi devant la mairie de Saint-Thomas-de-Bobigné. Les villes concernées accompagnent ces actions en fournissant des bacs aux participants, mais aussi en prenant en charge la collecte des déchets ramassés.
À retenir également pour ce week-end.
Le premier salon du livre qui se tient au domaine de la Roche à Cerisé, c'est organisé par l'association Histoire et Culture en Bocage. La suite du festival Bouillé aujourd'hui. Toujours fidèle aux arts de la rue, il propose une nouvelle fois une belle programmation dans un lieu inédit à partir de 17h. Ce sera dans le parc du logis de la Garenne de Cercé à Val-en-Vigne. À découvrir une exposition de Vanessa Joussaume ainsi que Saxo Quartet pour un spectacle musical, la compagnie POC pour un concert jonglé et les Krilati pour un spectacle de cirque. Au royaume des enfants des épées, le thème des animations demain après-midi au château de Saint-Mémin avec Spata, un collectif d'artistes du spectacle, comédien mais escrimeur avant tout. Il sera proposé des ateliers d'initiation à l'escrime historique. entrecoupé de combats chorégraphiés selon les traités de l'époque médiévale. Tout un week-end d'animation au centre de secours de Mosée sur les Mignons, axé sur le volontariat ce samedi, mais également demain dimanche à partir de 10h. À découvrir également en parallèle toute une exposition sur l'histoire de la caserne de Mosée. Un marché de producteurs et commerçants est proposé à la Petite Boissière demain dimanche, place de la Mairie. Vous y êtes attendu de 9 à 13h. La 9e édition du Salon National du Bonsaï se déroulera ce week-end au Parc Oriental de Maulévrier, le plus grand jardin japonais d'Europe, près de Cholet, vous le savez. À cette occasion, Jean-François Busquet, invité d'honneur et artiste, présentera une partie de sa collection et animera ce salon. Des ateliers libres seront proposés demain au village professionnel pour profiter des conseils et des techniques d'entretien des bonsaïs animés par les Bonsaïkas.
Tu le dis bien, la saison culturelle de scène de territoire lancée ce week-end.
6 spectacles sont proposés d'ici le week-end prochain pour présenter une saison qui s'annonce très riche avec une 40aine de propositions, dont une 20aine de dates reportées. Si les ouvertures seront musicales, sauf à Moléon, l'ensemble de la saison sera plus éclectique, comme le confirme Béatrice Dopagne, la directrice de scène de territoire au micro Colline de Famigazo.
C'est une scène vraiment généraliste, donc qui va regrouper toutes les disciplines du spectacle vivant, le théâtre, la danse, la musique, le cirque, l'humour. Et dans chaque discipline, j'essaie aussi de travailler différents genres. Par exemple, en musique, on aura aussi bien de la musique classique que du jazz, que de la chanson. Et puis, c'est une programmation qui réunit quand même des grandes têtes d'affiche, donc des artistes d'envergure nationale, voire internationale, puisque notamment cette saison, on aura la chance d'accueillir, par exemple, une danseuse et chorégraphe québécoise, Louise Le Cavalier, qui est mondialement connue parce qu'elle avait notamment dansé avec David Bowie. C'était aussi une danseuse vraiment iconique d'une des plus grandes compagnies internationales qui s'appelait La 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 Human Steps. Et puis je voudrais quand même aussi parler d'un autre chef-d'œuvre, une pièce de la chorégraphe Maggie Marin, une pièce créée en 1981 et qui est déjà aussi inscrite dans l'histoire de la danse. Donc ça c'est Maybe, qui est un spectacle reporté et que nous avons donc réussi à maintenir dans le cadre d'une tournée.
La saison de scène de territoire est donc lancée avec une première soirée hier au théâtre de Bressuire autour d'un récital de piano à quatre mains. Le jazz voyageur de No Sax No Clar animera la soirée au château d'Argenton ce samedi soir à 20h, puis Pescalis demain à 11h.
Les Amis des Arts proposent une exposition en lien avec Belle la Différence.
L'exposition est présentée depuis hier soir avec le vernissage, puis ce week-end des 11 et 12 septembre, suivi des week-ends des 18, 19 et 25, 26 septembre. Trois week-ends donc pour découvrir des œuvres classées en art brut. Explication avec la coprésidente des Amis des Arts, Josette Noireau.
Art brut, en fait, ce sont des personnes qui font de l'art sans avoir été à l'école des beaux-arts ou d'école d'atelier. Ce sont des gens qui font vraiment pour le plaisir de créer, pour le plaisir de dessiner. Un petit peu comme les gamins chez eux prennent un crayon, ont le plaisir de faire des choses, de dessiner. Et puis, petit à petit, quelquefois, on arrive à faire des œuvres, là, puisque maintenant, ce sont des œuvres d'art. Et maintenant, l'art brut est reconnu comme étant un art à part entière, non pas l'art des handicapés. Là, maintenant, c'est un art à part entière. Voilà, je pense que c'est ce que nous, on voulait mettre en évidence. Hein, que vraiment, mais on est content de le faire avec Belle la Différence, puisque aussi, on veut mettre en évidence que ce sont des artistes, eux aussi, les personnes en situation de handicap. Ce sont des vrais artistes.
Et l'art brut peut être une véritable thérapie. L'artiste plasticienne colombienne Anna Ubiré accompagne d'ailleurs les adhérents du GEM de Bressuire, le groupement d'entraide mutuelle qui présente une fresque lors de cette exposition. Sans le savoir, sans doute beaucoup de personnes se sont mises à l'art brut pendant le confinement. Écoutez Anna Ubiré.
Alors, je pense que oui. Alors, j'ai pas fait une enquête. C'est un ressenti tout à fait. Je pense que les gens cherchent de plus en plus cette créativité qui est en eux, qu'ils ont besoin d'exprimer, parce que finalement, c'est la créativité qui nous fait vivre. Hein. Donc, c'était vraiment une évidence que les gens de plus en plus cherchent des valeurs plus à se développer personnellement, plutôt une recherche personnelle, intérieure. Et l'art est tout à fait un outil qui permet cet épanouissement intérieur.
L'exposition proposée par les Amis des Arts avec l'Artothèque, Chantal Raybon et le GEM, en partenariat avec Belle la Différence, a donc été présentée hier soir lors du vernissage. Vous pouvez le découvrir donc ce week-end, mais également les 18, 19 et 25 et 26 septembre. Je vous rappelle que le pass sanitaire est obligatoire.
L'actualité sportive du week-end.
En football, pour le compte du championnat national, Cholet accueille hier soir le leader Concarneau, invaincu depuis 5 rencontres. Les Choletais ont mis un frein à cette performance lors de cette 6e journée puisqu'ils se sont imposés à domicile sur le score de 4-2. Les Chamois, eux, retrouvent le championnat de Ligue 2 ce soir avec un déplacement à Auxerre après la trêve internationale. 2 semaines sans match, plutôt bienvenue après un mois d'août bien chargé sur le terrain et animé en coulisses par le départ de Pape Ibouba et l'arrivée de Tormin et Bontil. Sébastien de Sabre, au micro-colline d'Alexis Denis, ne s'est pas exprimé depuis le départ de son buteur.
Le départ de Pape s'est fait extrêmement rapidement, il n'y avait rien de programmé, mais on sait qu'un joueur qui a marqué autant de buts depuis l'année dernière, on sait qu'on peut le perdre, mais on sait qu'on peut le perdre dans les dernières minutes du mercato. C'est ce qui s'est passé parce qu'au final, vraiment, il n'y avait pas grand-chose avant ces dernières heures. Hein, donc voilà, et puis après, on a récupéré 2 joueurs pour l'instant. J'en espère un autre dans un profil de couloir.
En attendant, Vallier et Tormin complètent le groupe qui a fait un nul contre Amiens, 0-0, caractéristique d'un début de saison équilibré pour les Chamois avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. L'effectif des Chamois est le plus jeune de Ligue 2, mais pas dénué d'expérience, fait valoir Sébastien Le Sabre, qui trouve ses joueurs bien impliqués dans le projet collectif.
Le principal, c'est l'équipe, c'est le club, et que les projets individuels passeront après le collectif. Voilà. Donc ça, c'est un message qui est fort. Et là, aujourd'hui, on sent des joueurs qui sont avec une très bonne atmosphère, qui se lancent, qui courent, qui sont vraiment des pros, des vrais pros, avec des objectifs personnels, mais qui répondent vraiment au départ au projet collectif. Et c'est pour ça que c'est plus agréable. Voilà. Après, ça va aussi avec les fins de contrat. Quand on a peu de joueurs en fin de contrat, c'est aussi ça qui fait la différence à haut niveau, hein, je veux dire. C'est ce qu'on a vraiment voulu faire, que les joueurs sachent qu'ils vont rester quelques années à Niort et se concentrer sur la tâche collective.
Retour donc du championnat de Ligue 2 pour les Chamois avec cette 7e journée et ce déplacement ce samedi à Auxerre. Coup d'envoi à 19h. À noter que Sissoko fera son retour en réserve ce week-end après une longue indisponibilité au National 3 face au Lège Cap-Ferré.
Les autres affiches de ce week-end, Patrice.
Bressuire à domicile accueillera Châtellerault. On notera également ce derby dans la Vienne entre Poitiers et Chauvigny en National 2. Match à domicile pour les Herbiers face à Angoulême. En Régional 1, déplacement de Chauray à Guéret, de Thouars à Montmorillon, de Nueil-les-Aubiers à Royan-Vaux. La réserve de Bressuire accueillera Saint-Jean-d'Angély. Et Chiré-Saint-Gelais jouera à domicile face à Fétia. Niort-Saint-Florent sera opposé à la réserve Poitvine. Et puis toujours en football, c'est la reprise ce week-end des championnats de la Régional 2 à la Détroit. En rugby fédéral 1, déplacement de Niort à Marcq-en-Barœul. En basket, en National 2 masculine, Niort se déplace à Laval. Et puis en handball, la reprise des championnats de National 1 ce samedi pour les Montcoutantaises. Après 2 saisons tronquées par la crise sanitaire, autant dire qu'elles ont hâte de retrouver la compétition. L'an passé, elles n'ont pu jouer que 3 matchs, conclus par autant de victoires. Pour l'heure, un seul objectif, assurer le maintien le plus rapidement possible et ne pas se projeter vers une éventuelle montée en D2. L'entraîneur Emilien Larrière.
J'ai connu des clubs où on annonçait des montées au 15 septembre et au final vous battez pour ne pas descendre à la dernière journée. Donc il faut être très vigilant là-dessus. On ne sait pas quel niveau on a à l'heure actuelle. Je ne connais pas le niveau de mes adversaires. Le nôtre, il est moins bon que celui de l'année dernière actuellement. Il faut encore qu'on travaille. Donc il faut qu'on bosse. Il faut aussi structurer le club à côté. Il faut continuer d'avancer. C'est trop tôt pour parler de D2 à l'heure actuelle au Sam Montcoutant. Ce qui est intéressant, c'est que chaque année, on franchit un cap au niveau du club, au niveau de la structuration. On a encore structuré davantage le staff au niveau du recrutement, au niveau des conditions d'entraînement, des conditions de travail. J'ai la chance de pouvoir travailler presque comme des clubs professionnels et ça, c'est une vraie chance qu'on a. Donc maintenant, il faut aussi laisser le temps de digérer tout ça, de continuer à avancer petit à petit. Puis il faut un budget également pour aller en D2. Et à l'heure actuelle, le budget, il est trop éloigné pour faire un maintien stable en D2. Donc le jour où on arrivera à 450-500 000 euros de budget, oui, on pourra dire qu'on peut prétendre à la D2, mais pour ça, il y a encore beaucoup de travail.
Le coach du SAM Handball, Emilien Larrière. L'ouverture donc du championnat de National 1 pour les Montcoutantais, ça sera ce samedi avec la réception de Bergerac à 19h. Les premiers résultats de ce week-end sportif seront à retrouver demain dans Sport Matin Dimanche, présenté par Vincent Nori, avec, je vous le rappelle, comme invité exceptionnel, la tête du SBAC, Hugo Hay. L'occasion de revenir, bien sûr, sur ces tout récents Jeux Olympiques de Tokyo. Il y aura également quelques petites surprises.